Chers collègues, je vous propose de commencer notre conseil. Je vous donne lecture des pouvoirs qui m'ont été communiqués. Jacques Fromme sera représenté par Marie-Claire Bilbord à compter de son départ. À compter de son départ. Est-ce qu'il doit partir peut-être avant ? Non ?
Bon. Du coup, il va partir.
Rémi Grand est représenté par Daniel Maire, Aline Triolet par Nicole Lesage, Astrid Tussaud par Jonathan Rodriguez, Yuri Philippe par Édouard Abon, Pascal Marniquet par Christine Mazzi, Sébastien Durand-Soye, il est là, donc il n'est pas représenté par Chantal Clément jusqu'à son arrivée. Hélène Perrin est représentée par William Richard jusqu'à son arrivée. Alors, du coup, c'est plus Yuri le Benjamin. Je pense que ça va être Edouard. Ouais. Donc, je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose de désigner Yuri Philippe comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention.
Il n'est pas là.
Edouard. Je lis ce qu'il y a dans le rapport, mais... Bien, mes chers collègues, comme vous le savez, la ville de Strasbourg a été durement touchée par un nouvel attentat. Nous pensions, depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, que ces attentats allaient cesser et que... le territoire national ne serait plus touché comme il l'avait été. Malheureusement, vous connaissez les circonstances de l'attentat de Strasbourg, avec un bilan extrêmement lourd, puisque nous avons appris, je crois, hier soir, qu'une cinquième personne était décédée des suites de cet attentat. Les réactions étaient évidemment des réactions partout, d'émotion et d'indignation. Et nous ne pouvons pas, à notre niveau, ne pas avoir une pensée pour les victimes, pour leurs familles, pour les habitants de Strasbourg qui ont été durement marqués par cet attentat. Et je voudrais évidemment vous inviter à vous associer par la pensée avec l'ensemble des habitants de Strasbourg en respectant une minute de silence. Merci beaucoup. Nous passons au rapport numéro 2, communication des décisions de justice. Chers collègues, avez-vous des explications à demander sur les décisions de justice mentionnées dans le rapport en votre possession ? En l'occurrence, il me semble qu'il s'agit d'une seule décision de justice. Y a-t-il des questions particulières ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au rapport 2.1 et je passe la parole à Christine Mazzi.
Merci. Donc, il s'agit de la poursuite de la mise en place du RIFSEP au sein de notre collectivité, la mise en place du nouveau régime indemnitaire. Donc, le RIFSEP a été initié au mois de décembre 2016. Un nouvel arrêté nous invite à poursuivre donc cette mise en place, notamment en ce qui concerne les agents de la filière culturelle, donc qui seront éligibles au RIFSEP à partir du 1er janvier 2019.
Sachant qu'à ce jour, il reste encore des catégories
Il reste
d'agents.
Encore notamment une partie de la filière technique, soit 87
pour laquelle nous
agents
attendons
qui
des décrets
pas,
d'application.
Voilà,
ou des,
nous sommes en attente des arrêtés.
Évidemment, au fur et à mesure que les textes seront pris au niveau national, nous appliquerons à notre niveau, mais on est toujours dans l'attente de ces textes. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport 2.2. Christine, toujours.
Donc, depuis de nombreuses années, la ville a confié la gestion de son service public de fourrière automobile à la SRL Pontallier. La convention qui nous lie avec la SRL Pontallier arrive à échéance le 30 juin prochain. Il convient donc de lancer la procédure de renouvellement de cette concession. Je vous propose donc d'approuver le principe d'une gestion déléguée sous la forme d'une délégation de service public, d'approuver le contenu des caractéristiques principales des prestations que doit assurer le prestataire telles qu'elles sont définies dans le rapport de présentation qui est joint à cette délibération, et enfin d'autoriser le maire ou son représentant à engager la procédure de consultation.
Évidemment, il est indispensable que nous ayons une fourrière à disposition puisqu'il arrive parfois que des véhicules soient stationnés ou durablement ou à des endroits inappropriés, et il faut que qu'en l'occurrence un professionnel puisse intervenir pour procéder à la fois aux frais d'enlèvement et aux frais de gardiennage et aux prestations de gardiennage, pardon. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.3. Christine, toujours.
Donc, il s'agit de la création de 3 groupements de commandes qui lieront la ville d'Épernay, le CCAS et la communauté d'agglomération pour donc 3 prestations. Une première qui concerne des services de coordination de sécurité et de protection de la santé, des prestations de levée topographique et également des prestations d'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques de l'amiante et du plomb. Une petite précision concernant ce troisième groupement de commandes, il est ouvert également aux communes qui sont membres de l'agglo.
Des questions? Ça devient une habitude hein, sur un certain nombre de sujets sur lesquels des commandes peuvent exister dans d'autres collectivités. En se regroupant, ça permet d'obtenir des conditions plus avantageuses, s'agissant notamment d'analyse amiante et plomb. De toute façon, elles ne sont pas faites par des entreprises locales. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.4. Groupement de commandes du CIEM.
Donc, il s'agit bien d'un groupement de commandes, mais là, de l'adhésion de la ville à un groupement de commandes du CIEM. Donc, je vous propose d'adhérer à ce groupement de commandes qui a été créé par le CIEM pour l'achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique. Cette adhésion permet aux acheteurs d'être en conformité avec la loi, tout en optimisant, bien sûr, la procédure de mise en concurrence. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention qui est annexée à cette délibération et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer.
Et vous avez effectivement en annexe la liste des membres du groupement de commandes gaz, ce qui permet là aussi, avec notamment la communauté urbaine du Grand Reims, d'acheter des volumes extrêmement importants et donc d'obtenir des fournisseurs des conditions beaucoup plus avantageuses que si nous y allions chacun de notre côté. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport 2.5, attribution de subvention, Christine.
Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subvention auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes qui sont énumérées dans le rapport en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Angers. Je vous ai bien vu lever la main. Pour le motoclub, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sentais venir. Défilmania. Ouais. C'est pour les frais de sonorisation. D'accord. Pour le reste, c'est bon? Pour le reste, c'est bon? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, on comptabilisera votre... c'est pas un refus de vote? Donc celui de Mme Perrin également ou pas?
Oui.
Donc ça fait 3 donc.
C'est okay. Abstention ou contre, M. Angers?
Monsieur Angers, c'était contre ou abstention? Alors, un contre et 2 abstentions. Donc un.
Je suis pas à la politique.
Bon. Donc un contre et 2 abstentions. Nous passons au rapport 2.6. Christine, toujours.
Donc, ce rapport concerne l'AIMA, donc l'Association indépendante marnaise d'assistance aux animaux. Je vous propose de renouveler la convention d'objectifs et de moyens avec l'AIMA, qui arrive à échéance le 31 décembre de cette année. Cette convention précise notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention municipale, ainsi que les droits et les obligations de chacune des parties. Je vous propose donc d'approuver les termes de cette convention qui est annexée au rapport en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions? Oui.
Donc, Marc. Simplement une remarque orthographique. Première et deuxième catégorie sont écrits 5 fois sans S. Première et deuxième catégorie.
D'accord. Je vois qu'il y a des élus qui lisent attentivement les rapports. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.7. Associations et organismes versement d'avance sur le budget 2019, qui est un rapport classique que chaque année...
Chaque année, donc en fin d'année, les associations et organismes demandent des avances de versement sur le budget de l'année suivante. Donc afin de ne pas pénaliser des associations et organismes qui reçoivent des subventions importantes nécessaires à leur fonctionnement et notamment le versement de salaire du personnel, il est proposé d'accorder des avances à prendre sur les crédits à voter ultérieurement.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui.
Une question concernant ces subventions qui sont des avances, etc. C'était sur le basket ainsi que sur le Boxing Club où je trouvais, sans doute bien sûr qu'il y a des raisons très arithmétiques.
Pardon ?
Sans doute y a-t-il des raisons très arithmétiques, mais je trouvais que les 2000 pour le boxing comme pour le amical basket, par rapport à celles qui précèdent, ça me semblait un peu faible. Alors, avoir les explications du pourquoi, du comment. Quoi.
Alors, les budgets ne sont pas les mêmes. Hein. Les associations qui ont beaucoup plus dotées et en personnel, et là, on se cale, nous, par rapport à leurs besoins qui sont identifiés préalablement. Hein. Donc, cette délibération est passée avec leur accord. Et on s'adapte bien pour que effectivement ils puissent bénéficier des fonds le plus tôt possible, sachant que le budget sera voté fin janvier. Oui, fin janvier. Donc c'est simplement pour leur permettre de faire la soudure et d'éviter qu'ils doivent attendre la mi-février, on va dire, pour toucher leur subvention. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de réserve de leur part. Hein, je pense.
Non, il n'y a aucune réserve. D'autant que les clubs fonctionnent pour la plupart en saison sportive.
Oui.
En saison sportive et que les subventions, elles sont bien sûr en année civile. Donc c'est une convention qu'on a avec eux de leur apporter une avance qui est prise bien sûr sur le budget qui sera voté au mois de fin janvier.
Oui, c'était sur le fait qu'il y ait une disproportion entre.
C'est parce que, oui, effectivement, les clubs n'ont pas du tout les mêmes budgets, ni les mêmes subventions.
Non, mais c'est sûr que si on constate entre le CCAS 1 million d'euros et puis on descend la plus petite à 2 000 euros, c'est sûr que les budgets ne sont pas les mêmes. Voilà. Non, mais on a les deux extrêmes, donc. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport concernant les tarifs 2019. Christine Mazzi.
Oui, comme chaque année à la même époque, il convient de procéder à l'examen des tarifs municipaux. Aussi, je vous propose d'appliquer à compter du 1er janvier les tarifs tels qu'ils résultent des tableaux qui sont annexés au rapport en votre possession.
Merci. Avez-vous des questions ? Oui, monsieur Angers.
Oui, en ce qui concerne les tarifs 2019... Moi, j'en suis resté au dernier épisode où vous avez reçu, il y a quelque temps, je crois, une délégation de gens qui étaient un petit peu en colère dans le cadre du contexte social délicat de ces dernières semaines. J'ai cru comprendre que vous étiez placé en homme de dialogue et vous aviez appelé à la concertation la plus large, même si effectivement... c'est pas les maires qui avaient forcément toutes les cartes en main pour régler ces problèmes. Moi, je pense que le contexte social est ce qu'il est. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de voir leur pouvoir d'achat rehaussé. Et je pense que je vois que je découvre sur table... la délibération 2.8 bis concernant quelques temps de stationnement qui seraient ouverts gratuitement, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Je pense qu'il y a une fracture dans notre société qui est quand même significative en matière sociale. Et je pense que moi, ça aurait pu passer par un gel de nos tarifs pour maintenir les tarifs 2018 encore quelques temps. Je pense que ça aurait été une voie intéressante pour permettre aux gens de bénéficier, à nos concitoyens de bénéficier d'un pouvoir d'achat qui soit meilleur. Et c'est quand même là ce qui autorise également à la dépense et de faire marcher le commerce local. Je ne pense pas que... une heure de stationnement, même si c'est un premier geste significatif, soit aujourd'hui de nature à résorber les difficultés du commerce. La ville d'Épernay a perdu 8000 habitants en 25 ans, 30 ans. Il y a aujourd'hui soit des riches qui vont faire leurs courses ailleurs qu'à Épernay. Les pauvres, malheureusement, vont... beaucoup vers les grandes surfaces. Aujourd'hui se développe le commerce par par informatique, par dématérialisation, ça n'arrange pas effectivement notre public commerçant local. Moi, je pense que nous devrions profiter de cette délibération pour faire un bond en avant. Je pense que ça serait tout à l'honneur de l'homme de dialogue que vous avez voulu être il y a quelques semaines, quelques jours. Et je ne doute pas que vous ne soyez pas à l'écoute de cette proposition.
Alors, j'ai effectivement rencontré les Gilets jaunes, on va les appeler par leur nom, en tout cas par le nom qu'ils utilisent, il y a quelques jours, enfin, il y a quelques... Oui, il y a environ... Ça devait être une semaine, jour pour jour, quasiment, ou mardi dernier, et je les avais rencontrés une dizaine de jours avant à Pierry. Il n'a pas été question du tout de tarification locale. Hein, je vous dis tout de suite, ni les impôts locaux, ni etc., n'ont pas du tout été évoqués. Ont été évoqués essentiellement des questions liées aux augmentations de pouvoir d'achat attendues côté de l'État, liées que ce soit pour des salariés ou pour des retraités, et aux impôts nationaux, avec notamment la polémique autour de la taxe carbone. En fait, quand on a élaboré la tarification pour cette année, il y a de très nombreux domaines dans lesquels on n'a pas augmenté nos tarifications, sauf là où on avait à répercuter des charges que nous avions nous-mêmes, puisque dans un certain nombre de cas, nos charges à nous augmentent. Hein, les frais de chauffage peuvent augmenter, les fluides d'une manière générale peuvent augmenter. Les prestataires auxquels nous faisons appel augmentent leurs tarifs et il est normal qu'on les répercute. S'agissant du stationnement, par exemple, seule la zone rouge, c'est-à-dire la zone véritablement d'hypercentre sur laquelle nous avons besoin d'une rotation accélérée des véhicules, augmente. Pour le reste, nous ne touchons pas à nos tarifs de stationnement, ce qui veut dire que les stationnements, notamment dans les parcs qui offrent une heure gratuite, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes, loin s'en faut, restent tout à fait abordables. Et j'y viendrai tout à l'heure, puisque nous proposons... dans le cadre d'une mesure visant à remédier aux difficultés du commerce, parce que finalement, le commerce, comme vous le savez, a été très largement victime de ces mouvements qui ont touché diversement notre pays. Mais ce qui est ici à une constante, c'est que tous les commerçants des villes moyennes, des petites villes ou des grandes surfaces ont été affectés par ces mouvements qui sont tous intervenus principalement sur des samedis, qui étaient notamment en fin novembre et début décembre des samedis extrêmement importants pour l'année, pour clore l'année comptable. Et en dehors de ça, vous noterez qu'il y a quand même assez peu de tarifs qui augmentent, en tout cas ceux qui augmentent le moins, que ce soit, je prends l'exemple de l'autopartage, il est stable, des médiathèques, c'est stable, de l'éducation et des activités, c'est stable, la restauration collective, en l'occurrence, on a aussi là aussi des augmentations, mais les progressions les plus faibles concernent les tranches basses du quotient familial. Pour la carte jeune, c'est stable. Pour les centres sociaux, il y a une stabilité des cotisations. Donc on a fait en sorte d'augmenter le moins possible nos charges, sachant qu'il faut tenir compte du fait que, dans le même temps, nos recettes, qui sont nos recettes de dotation, baissent. Hein, depuis, on aura l'occasion de l'évoquer lors des orientations budgétaires mi-janvier. L'État a pour politique, depuis plusieurs années, et ça doit faire maintenant au moins 7 ou 8 ans, puisque ça avait commencé avant François Hollande, donc sous le mandat Sarkozy, où il y a la réforme de la taxe professionnelle qui avait déjà considérablement baissé nos recettes. Nous baissons nos recettes tous les ans et on ne peut pas non plus en même temps baisser nos tarifs, parce que d'abord nos tarifs ont pour objectif de faire face à des augmentations de charges que nous subissons, et que si en plus nos dotations de fonctionnement sont en baisse et qu'on doit baisser nos tarifs, on s'en sort plus, et au bout du compte ce sont les services publics qui en pâtissent, puisque forcément si les recettes des dotations sont en baisse, si les recettes d'exploitation de la ville sont en baisse, il va de soi que c'est des pans entiers du service public qu'il faut remettre en question, et je ne pense pas que ce soit votre souhait, pas plus que ça n'est le nôtre. Donc, quand on décide d'augmenter les tarifs et qu'on le fait avec mesure, vous pensez bien qu'on le fait un peu contraint et forcé, parce que sinon on risque d'hypothéquer d'autres activités auxquelles nous tenons, auxquelles les Sparnassiens tiennent, et c'est un espèce d'équilibre qu'il faut trouver. Et je pense sincèrement que les augmentations qui ont pu être décidées pour cette année sont modérées, qu'elles sont sur 2 ans inférieures à l'inflation. L'inflation qui a repris un peu, donc on est en dessous des niveaux d'inflation si on se situe sur les 2 dernières années. Et voilà, on peut pas. Je conviens qu'il serait mieux et ce serait plus facile pour nous de voter des tarifs stables, mais en même temps, les contraintes de gestion existent et nous devons faire face à des dépenses qui sont, elles, ou des charges qui sont, elles, croissantes, et que, évidemment, on ne peut pas, même pour faire plaisir à certaines personnes qui l'apprécieraient, j'en suis convaincu, rester stable sur les tarifs, alors même que nous pensons avoir une chute importante de nos, nouvelle chute importante de nos dotations dans quelques semaines. D'autres interventions. Marc Lefebvre et William Richard.
Oui, donc, la limite. Vous limitez en général à 2%, mais il y a quelques tarifs qui explosent, qui augmentent de 10, 20, voire 30%, surtout pages 13 et 10, pour la location de salles. Vous passez de 600 à 800 euros. C'est quand même une augmentation substantielle. Et pourquoi ?
Tout simplement parce que là aussi, quand on fait de la comptabilité analytique, on se doit d'essayer de... de fixer comment ? Oui, c'est des cautions en plus. Hein. C'est pas des. Là, en l'occurrence, ce à quoi vous faites référence, c'est pour des cautions. C'est-à-dire que quand ces cautions sont rendues, sauf quand il y a des dégâts, et nous avons eu malheureusement à subir un certain nombre de sinistres qui justifient que, dans certains cas, on augmente la caution. Mais en règle générale, quand on augmente nos tarifs, c'est parce qu'on a aussi en face des charges qui flambent. On va sans doute évoquer. La question tout à l'heure, quand on voit l'évolution du gaz ou de ce genre de dépenses, c'est assez impressionnant et qu'on se doit évidemment, nous aussi, de tenir compte de ces éléments qui nous concernent comme ça peut concerner les particuliers. Oui, les tarifs qui passent de 600 à 800 page 13, c'est effectivement, ce sont des cautions. Donc, c'est l'organisme nous rend la salle en bon état, il n'y a pas de difficulté. Et là, la caution couvre à la fois la salle, le matériel, le ménage. Bon, il y a des fois, on loue des salles, on les retrouve dans un état absolument épouvantable, ce qui veut dire que c'est évidemment autant de frais de ménage que la ville doit prendre à sa charge. Donc, en plaçant la caution à un niveau plus élevé, on s'assure un meilleur respect de nos équipements. Et je peux vous assurer que c'est particulièrement pénible pour... Nos agents, de devoir remettre en état des salles qui ont été, pardonnez-moi l'expression, salopées parfois, ou détériorées, hein, ce qui nous amène à faire jouer les assurances. Et vous savez comme moi que dès qu'on fait jouer les assurances, il y a aussi des franchises qui restent à notre charge. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Richard.
Oui, merci, monsieur le maire. J'ai écouté attentivement votre propos en réponse à la demande de Jean-Paul Anger. La question que je me posais, c'était quel impact, puisque il est vrai qu'il y a quelques lignes où les choses ne bougent pas par rapport à l'année précédente. Donc la question qu'on peut se poser, quel impact sur le budget de la ville dans son ensemble aurait un tel gel pour cette année
des, un gel de tous les tarifs, vous voulez dire ?
Oui, des tarifs que vous nous proposez là, bien sûr. Et donc... Je pense, enfin, nous avons tendance à penser que, au niveau de la ville et par rapport à son budget global, ça ne doit pas être. Je pense que ça doit être, bon, je dirais pas non significatif, mais très peu. Et même si c'était non significatif, ce serait quand même symbolique et ça répondrait à votre préoccupation concernant le pouvoir d'achat de tous ces gens qui manifestent et même ceux qui ne manifestent pas ces dernières semaines. Merci.
Oui, je vous fais la même réponse qu'à Jean-Paul Anger. Hein. Personnellement, ce serait beaucoup plus facile et commode et confortable de ne dire aucun tarif n'augmente. Mais comme nous savons d'ores et déjà que nous allons perdre à nouveau au niveau de nos dotations d'État et que malheureusement les pertes s'accumulent aux pertes et que depuis quelques années, c'est des millions, je crois qu'on doit être à 7 ou 8 millions de perdus pour la collectivité, il y a un moment où on ne peut plus consentir des baisses de tarifs sans mettre en péril, encore une fois, ou des postes budgétaires s'agissant d'agents, ou des organisations de services ou des services publics rendus à la population, parce que de baisse en baisse, avec en même temps des dépenses qui flambent, puisque s'agissant de, j'évoquais tout à l'heure le prix du gaz et les taxes qui sont affectées au gaz augmentent, et évidemment nous les prenons plein pot. Donc quand on recherche un équilibre budgétaire, quand on cherche effectivement à maîtriser notre budget, on ne peut pas accepter ou faire face à une augmentation des tarifs et de faire baisser toutes nos recettes. Donc il faut bien que certaines recettes continuent de rapporter, voire rapportent un peu plus pour équilibrer nos budgets. Monsieur Angers.
Oui, moi, j'entends bien votre remarque. J'ai aussi écouté le président de la République. Et il me semble que les maires, notamment au travers de leurs représentants, vont revenir un petit peu au cœur du jeu. Je pense que le président Macron a quand même compris qu'à force de casser, je dirais, tout ce qui était en possibilité d'intermédiation, que ce soit dans la société ou par rapport aux élus, il prenait quand même le peuple de manière frontale. Donc j'espère qu'au travers des travaux auxquels vous serez certainement conviés, non pas en tant que maire d'Épernay, mais en tant que président des maires de la Marne, c'est quand même aussi un message à faire passer. Et on espère qu'effectivement, nos relations avec l'État, au moins sur un point de vue financier, soient quand même éclaircies et qu'on ait, je dirais, matière à pouvoir, dans nos collectivités, s'affranchir, je dirais, de nos responsabilités.
Oui, mais encore une fois, j'ai dû, au total, dans mes échanges avec les Gilets jaunes, ça a dû durer à peu près deux bonnes heures et demie, pas une seule fois, j'ai entendu, et d'ailleurs dans les mots d'ordre des Gilets jaunes, pas une seule fois, les tarifs municipaux, les impôts locaux étaient mis en cause, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pèsent pas, évidemment. Mais ce sont essentiellement des taxes d'État, c'est essentiellement l'accumulation de taxes, d'impôts, d'ailleurs avec des arguments parfois contradictoires, hein, entendant la même personne évoquer la nécessaire baisse des impôts et des taxes et en même temps demander plus de services publics. Il y avait aussi quelques contradictions parmi les slogans des Gilets jaunes. Mais encore une fois, si nos recettes étaient stables, si l'État ne nous faisait pas les poches depuis des années, hein, ça doit faire 7 ou 8 ans maintenant que l'État, de manière systématique, sous des formes différentes, réduit les concours aux collectivités, nous aurions incontestablement beaucoup plus de marge de manœuvre pour, à notre niveau, limiter nos augmentations de recettes ou d'impôts. Il se trouve qu'on a fait le choix à Épernay depuis maintenant 13 ans de ne pas augmenter les impôts, de nous contenter de l'augmentation des impôts qui est prévue par le législateur dans le cadre de la loi de finances, ce qui n'est pas le cas de nombre de collectivités. En même temps, nous essuyons, je vais le répéter une fois de plus, des baisses considérables et on profitera très certainement des orientations budgétaires pour souligner l'importance de ces baisses et le caractère cumulatif de ces baisses. Il y a un moment où on ne peut plus non plus consentir des baisses parce qu'encore une fois, ça se fera au détriment du bon fonctionnement de nos services, et le bon fonctionnement de nos services nécessite des moyens, si ce n'est constant, au moins suffisants pour maintenir nos politiques.
Monsieur le maire,
oui.
Je renouvelle et je la reformule autrement, ma question, à savoir quel impact, si on procédait à un gel, quel impact sur le budget cela aurait-il? Voilà, parce que oui. Puisqu'on travaille par comptabilité analytique, normalement, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, on doit pouvoir dire, bon, ben voilà, ça représente tant par rapport à la masse globale de 2017 et ça représenterait tant de manque à gagner, hein, puisque là, on serait sur un manque à gagner, si nous gelions et si la décision était prise de geler les tarifs. Voilà.
Alors,
c'est
je ne suis pas en capacité de vous donner tout de suite le...
Prochainement.
Oui, oui, je vous le dirai.
Au-delà d'un propos général.
De toute façon, le prochain conseil étant le 14 janvier aux orientations budgétaires, je pourrais vous donner ce chiffre-là. Mais sachez que, par exemple, si nous votons dans un instant le fait de porter une deuxième heure gratuite aux consommateurs sparnassiens, puisque ce sont tous les consommateurs qui vont bénéficier de cette deuxième heure gratuite, évidemment, ça pèsera aussi. Ce sera aussi un manque à gagner sur nos recettes. Donc on va essayer de chiffrer ça à la louche, parce que j'allais dire, je ne suis pas sûr qu'à l'euro près, on soit capable de le faire, mais on pourra vous donner une estimation du montant que ça représente, à la fois si nous renoncions à toute augmentation Et si, et on voudra également le coût d'une mesure qui consiste à accorder une deuxième heure gratuite jusqu'au 31 janvier pour permettre aux commerçants et aux clients qui ont aussi qui vont être les premiers bénéficiaires de cette opération de bénéficier du stationnement gratuit pendant les 6 semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Donc je mets le rapport aux voix. Avis contraire ? Abstention ? Donc 3, le rapport est adopté. Nous passons au rapport donc 2.8 bis, qui est un rapport que nous vous présentons, étant donné qu'il n'y avait pas de conseil municipal, nous l'avons présenté sur table préalablement, et je m'en excuse. Ce rapport vise effectivement à faire face aux difficultés du commerce local et en même temps aux besoins qu'exprime un certain nombre de nos de chalands du centre-ville de pouvoir bénéficier d'un tarif plus abordable en cette période de fête et pour la période des soldes. Vous avez en tête très certainement les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement qui fait état de 2 milliards de pertes pour le chiffre d'affaires pour le commerce, toute forme de commerce confondue. Et je n'ai pas rencontré en ce qui me concerne un commerçant qui ne se plaint pas du contexte, tout simplement parce qu'il est un peu anxiogène, parce que même si il n'y a pas eu de débordement spectaculaire à observer chez nous par rapport à ce qui a pu se passer à Bordeaux, à Nantes, à Paris, évidemment, les choses se sont plutôt pas trop mal passées. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de clients ne sont pas venus faire leurs courses en centre-ville, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont été dans les zones commerciales, que c'est assez spectaculaire d'une année sur l'autre, parce qu'évidemment, la période de novembre-décembre est une période propice aux achats, pour la simple et bonne raison que tout le monde prépare ses fêtes de Noël, qu'on ne sait pas ce que donnera le week-end prochain, même si le mouvement des gilets jaunes semble, j'allais dire, être en diminution assez nette. Il n'en demeure pas moins que l'activité commerciale est importante, elle l'est pour les commerçants, elle l'est pour leurs salariés, et qu'il me semble nécessaire de donner un petit coup de pouce qui constitue quelque part une aide budgétaire directe, hein, même si c'est un manque à gagner pour nous, mais ça revient quasiment à une dépense budgétaire supplémentaire. Et je vous propose donc, après avoir demandé l'autorisation au conseil municipal d'accepter ce rapport sur table, de voter ce rapport qui, je pense que Jacques ne me contredira pas, est attendu par les commerçants, même si nous avons quelque part devancé leur attente. En tout cas, ils n'imaginaient pas que c'était envisageable, mais nous sommes plusieurs villes à avoir entrepris cette démarche dans un but d'essayer de compenser une part des difficultés, en tout cas d'inviter les chalands à revenir fréquenter un peu plus le centre-ville au cours des prochaines semaines. Jacques.
Je voulais noter qu'effectivement les commerçants sont dans l'attente de cette offre et que le commerce parnassien a beaucoup souffert pendant les périodes de manifestation des gilets jaunes d'une baisse de fréquentation très forte, quelle que soit l'activité de commerce. Dans l'alimentaire à aujourd'hui, les précommandes de Noël sont nettement en baisse et c'est vraiment très inquiétant. Certains commerces ont besoin de cette activité de Noël pour maintenir leur bilan annuel. Si vous voulez, le commerce sur novembre et décembre, pour certains commerces, réalise un chiffre important qui fait la stabilité de l'entreprise sur l'année. C'est vraiment très important. On le voit aussi, c'est un point autre, mais par exemple, la manifestation, enfin le village des automates, par exemple, on le voit à une baisse de fréquentation parce qu'il n'y a pas les personnes ne viennent pas en ville. On le voit même au jour le jour. Il y a des jours où on a eu des baisses de 30 à 40% de fréquentation alors que tout le monde est content de cette animation. Les gens sont heureux d'y venir, mais il n'y a pas la fréquentation habituelle que l'on avait dans le centre-ville.
Et je crois pouvoir dire, pour échanger avec pas mal de collègues maires, que c'est partout pareil,
oui,
hein, que une ville comme Reims est touchée, mais également des villes plus petites que nous, parce que le climat ambiant fait que les gens sont dérangés dans leurs habitudes, d'autant plus que les mouvements des gilets jaunes ont été la plupart du temps ciblés sur des samedis, qui sont les jours phares d'activité commerciale, et tout le monde en a souffert, quelle que soit la taille des commerces, quel que soit le secteur d'activité. Je crois que les 2 milliards, je me mets de côté tout ce qui a pu se passer autour des Champs-Élysées, où là, ça a été quasiment une activité nulle, puisque certains samedis, tout était fermé, ce qui n'était pas le cas chez nous. Il n'en demeure pas moins que la fréquentation des espaces commerciaux a été en baisse, et je n'ai pas rencontré un seul commerçant qui ait démenti cette baisse. Monsieur Angers.
Oui,
Moi, je voterai cette délibération sans difficulté. Simplement, je renouvelle mes propos que j'ai tenus tout à l'heure avec mes collègues. Nous sommes persuadés que les mouvements sociaux qu'on a pu connaître ont effectivement perturbé les choses, perturbé le commerce durant ces dernières semaines. On veut bien l'entendre, mais moi, je pense qu'il y a quand même une fracture sociale qui est très forte. Pourquoi il y a eu aussi une telle écoute ou une telle, au moins dans un premier temps, une telle sympathie, on va dire, de la part des Français par rapport à ces mouvements-là? C'est parce que chacun y retrouvait un petit peu, dans un spectre de revendications très large, mais chacun retrouvait quand même une difficulté qu'il a pu rencontrer de son côté, au niveau des taxes, au niveau des difficultés. Et je pense qu'il y a tout ce contexte-là qui intervient. Moi, simplement, je pense qu'il y a un moment, il va quand même aussi peut-être falloir, à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'agglomération, très certainement, aussi élever un peu le débat. Quand on voit des concurrences qui existent, notamment avec certaines zones d'activité, avec l'arrivée d'enseignes significatives dont on a peut-être besoin, je sais pas. Quand on voit par contre certains types de commerces que l'on n'a pas forcément sur site, je pense à des commerces de vrac, ou etc., les consommateurs pourraient trouver d'autres niches à explorer. Moi, je pense qu'à un moment, il va peut-être falloir trouver le moyen de mettre en place des assises du commerce. Je ne sais pas si, d'un côté, il y a les commerçants, mais comment est-ce que de l'autre côté, en face, on peut faire en sorte que les consommateurs, que les citoyens puissent éventuellement faire part de leur désir, de leurs remarques sur ces sujets-là, pour essayer de tirer les choses par le haut. On ne peut plus être dans ces phénomènes où chacun se tire un peu la bourre. Et où effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le commerce de centre-ville qui est pénalisé. On voit là, j'évoquais tout à l'heure la situation du commerce dématérialisé, et on sait qu'on a affaire à des Amazones ou des structures telles que celle-ci qui, elles, ne mettent pas un centime d'impôt dans les caisses de l'État français, encore moins dans nos collectivités. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut trouver les moyens de poser le sujet, de le tirer par le haut et de voir comment, à l'échelle locale, on peut imaginer de répondre à certaines insuffisances d'aujourd'hui, peut-être réorienter les choses et faire en sorte de ne pas se faire déborder aussi par des arrivées d'enseignes qui risquent à terme à la fois de venir peser sur le marché, puis au bout du compte qui nous apporte pas grand-chose, parce que en plus c'est des produits d'importation qui sont pas forcément manufacturés sur notre territoire. Donc moi je pense qu'il y a quand même à traiter peut-être les choses différemment que de renvoyer la balle et essayer d'apporter des pansements sur des mettre des cautères sur des jambes de bois. Ça me semble nécessaire peut-être d'ouvrir le sujet autrement.
Alors on a ouvert déjà ce débat dans le cadre du projet Action Cœur de Ville, hein, puisque c'est un peu le cœur du dispositif, le fait de s'interroger sur les nouvelles formes de distribution. Alors il y a un certain nombre, et c'est là on est dans un monde d'énormes contradictions, puisque si on écoute les chalands, eux aspirent à avoir le choix le plus large, quitte à ce que ça se traduise par une concurrence aiguë qui favorise mécaniquement la baisse des prix. Et si on entend les remarques de certains, il faudrait accueillir de nouvelles enseignes dans le but d'obtenir des prix encore plus bas. Je respecte ce point de vue. Hein. D'un autre côté, on a un certain nombre de commerçants qui, à juste titre, se disent « Oui, mais plus on va accueillir de commerçants, plus on va déstabiliser l'édifice en place. » Et c'est un point de vue qui se défend également. S'ajoute à cela, on l'a vu lors d'un séminaire qu'on a eu au mois de juillet dernier, l'émergence du commerce en ligne qui fait des dégâts considérables, notamment auprès d'un certain nombre de public
cible, les jeunes, à commencer par les jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont pris l'habitude d'aller faire leurs achats sur Internet pour profiter des Black Friday, pour profiter de toutes les opportunités et des soldes quasi permanents qu'offre Internet. C'est un phénomène qui peut tout emporter. C'est un phénomène aussi qui peut permettre, qui doit justifier qu'une adaptation du commerce physique avec, l'introduction des modes de, numériques en appui du commerce physique. Donc on a eu un séminaire tout à fait intéressant avec un consultant sur le sujet qui nous laissait entrevoir effectivement une mutation d'une partie importante du commerce. Et toutes ces évolutions, sont parfois contradictoires les unes avec les autres. On évoque aujourd'hui, à juste titre, les souffrances du commerce local. Je crois pouvoir dire, et je ne me trompe pas beaucoup parce que ça repose sur un certain nombre d'analyses qui ont été largement publiées, que quelque part la grande distribution souffre plus encore cette fois que le commerce local, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Jusqu'ici, la grande distribution avait été plutôt épargnée. Elle souffre plus aujourd'hui que le commerce local parce qu'elle subit, elle, de plein fouet à la fois le développement massif des achats en ligne d'un côté et de l'autre côté, elle a été fortement affectée par les mouvements qui ont souvent toucher des ronds-points situés aux abords des centres commerciaux. Ça a été le cas chez nous, sur la zone de Piri. Ça a été le cas dans d'autres villes où des zones commerciales ont été pratiquement fermées trois samedis consécutifs. Et quelque part, la baisse est encore plus forte chez eux. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins sur l'idée de ou d'états généraux ou d'assises, enfin quelque chose qui permettrait de faire le point avec les acteurs concernés, qui sont aussi bien les chalands que les commerçants, sur la nécessité de repenser l'acte d'achat, de repenser l'offre commerciale, d'essayer d'éviter autant que faire se peut de mettre par terre des pans entiers du commerce local ou de l'artisanat local, parce qu'effectivement le recours systématique à des achats en grande surface ou à des produits importés peut être une catastrophe. En même temps, quand on évoque les problèmes de pouvoir d'achat des gens, alors il y a eu effectivement des pertes de pouvoir d'achat, c'est certain, mais il y a eu aussi chez beaucoup d'autres une augmentation des charges liées à la consommation, qui sont des augmentations, à la fois consenties et subies. Je veux dire par là que quand on regarde l'analyse des comptes des familles, c'est pas tant les loyers ou les charges de chauffage qui ont augmenté, c'est toute une série de dépenses qui n'existaient pas avant. Je prends l'exemple de toute la téléphonie qui fait qu'aujourd'hui le mode de vie font que une famille avec deux enfants et les milieux modestes, tout le monde doit avoir son portable. On n'imagine pas qu'un seul membre de la famille ait un portable. Il y a une forte demande des enfants et, encore une fois, c'est tout à fait logique puisque la société de consommation pousse à ce que chacun ait son smartphone, que quand on accumule les coûts d'abonnement, les contraintes liées à Internet, etc., ce sont souvent ces postes-là qui ont complètement déstabilisé des familles entières. Si on ajoute chez d'autres le poids du tabac qui devient excessivement élevé, mais il y a une politique publique derrière qui vise à réduire la consommation de tabac, on se rend compte que les postes qui augmentent, ce sont des postes. Enfin, j'ai le sentiment que les difficultés du pouvoir d'achat sont plus. Et d'ailleurs, le témoignage des gilets jaunes, témoignage personnel des gilets jaunes que j'ai pu rencontrer, était pas tant lié à des pertes de ressources qu'à des augmentations de charges. C'était des emprunts qui s'accumulaient derrière des emprunts. C'était. La personne, d'ailleurs, les deux personnes avec qui j'ai discuté, à part une, qui avait de réelles difficultés de ressources parce que c'était une jeune femme qui avait des ressources extrêmement faibles. Pour les autres, leur problème venait d'un surcroît de dépenses plus que du montant de leur salaire. Leur salaire était d'ailleurs de niveau supérieur au salaire médian, mais ils n'arrivaient plus à faire face aux emprunts, aux charges diverses liées ou à leur famille ou à la manière dont ils devaient s'équiper pour faire face à leurs charges familiales. Et donc, il y a une véritable interrogation sur le pouvoir d'achat de manière générale. La consommation, et de ce point de vue, c'est pas anodin qu'effectivement reviennent, et vous avez raison de le souligner, des formules d'achat comme l'achat en vrac, qui correspond en plus sur le plan de l'écologie, il y a une diminution des déchets du type emballage, sur-emballage, auquel on assiste. Il y a un retour vers les filières courtes, une aspiration à pouvoir se réapprovisionner plus près et moins cher, parce que quand partout se sont mis en place ou des coopératives ou des regroupements de producteurs pour vendre directement à la population, c'est un bénéfice à la fois qualitatif pour la population et c'est un bénéfice sur le plan financier, parce qu'évidemment, quand vous supprimez les intermédiaires, vous arrivez à avoir des prix de vente aussi bien de la viande que des légumes qui sont bien inférieurs avec une qualité supérieure. Donc il y a, je pense, à repenser toute une partie de l'acte de consommation. Alors, à l'échelle de notre ville, on peut engager cette réflexion. Il va de soi que les choses se joueront très souvent à un niveau supra-communal, mais je pense que ça peut nous permettre aussi d'orienter ou d'essayer d'attirer des filières nouvelles dans nos centres-villes, parce que je prends l'exemple du frais de la filière courte. On a d'ailleurs des demandes nouvelles sur le marché qui devraient, je l'espère, se concrétiser pour faire en sorte de produire davantage local, produire souvent moins cher parce qu'évidemment, tout le monde fait des efforts et les intrants sont moins importants qu'ils ne l'étaient à une époque. Et je pense que ça peut être aussi une réponse à apporter au pouvoir d'achat des familles. Donc on va regarder avec Jacques comment on peut organiser ça. Mais je pense qu'effectivement, après la période du mois de janvier qui sera pour l'essentiel consacrée aux soldes, et les commerçants vont tous espérer se rattraper au niveau des soldes de ce qu'ils auront perdu au cours du mois de novembre ou du mois de décembre, je pense qu'il serait utile d'avoir un échange élargi avec les commerçants locaux, avec les acteurs du commerce en général, pour que nous puissions aborder ces questions. Jonathan.
Oui, pour compléter les propos, on a parlé de commerce en ligne, de code grande surface, etc. Je tiens à donner l'initiative qui a été faite au Sénat au mois de juin de cette année, où il y a eu un pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. C'est une initiative parlementaire large, puisque c'était républicains, socialistes et centristes, qui ont fait ce pacte national qui a été voté largement avec beaucoup de dispositions sur le commerce en ligne, sur la rénovation et puis le conquérir les logements qui sont en centre-ville, donc réinvestir les centres-villes. Donc il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, ça a été voté au Sénat. C'est sur le bureau de l'Assemblée. Ça sera voté un jour. Mais il y a des choses importantes pour des villes comme de notre taille qui sont imaginées là-dedans. Il y a aussi la réflexion du commerce en ligne qui a été portée. Et ça a été fait en collaboration aussi avec les associations de commerçants de centre-ville qui avaient participé à ces auditions et qui avaient émis des idées originales pour justement préserver le commerce de centre-ville. Donc il y a des choses à regarder là-dedans. Je pense qu'on pourrait peut-être regarder pour voir si ça peut s'appliquer quand ce sera voté définitivement, mais faire pression aussi auprès de l'Assemblée pour que ce soit au moins étudié et éventuellement amendé.
Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement les taxes qui doivent toucher les GAFA, enfin, notamment Amazon, hein, le fait que leurs entrepôts ne soient pas considérés comme des surfaces commerciales. Il y a des propositions de loi qui ont été déposées en la matière. Et moi, je souhaite qu'effectivement, la TASCOM, notamment, s'applique aux entrepôts d'Amazon. Deuxièmement, il y avait la question je crois que c'était je me demande si ce n'était pas le maire de Cannes qui proposait qu'il y ait une taxe prélevée sur chaque livraison à domicile. Parce qu'effectivement, Amazon fait travailler, certes, des messageries, mais à chaque fois qu'on fait livrer un colis ou à domicile ou chez un magasin qui sert d'intermédiaire, il y avait la proposition de mettre une taxe d'un euro pour financer justement les centres-villes, le commerce traditionnel, etc. Il y a une vraie situation de concurrence déloyale qui existe en la matière. Moi, je souhaite ardemment qu'une solution soit trouvée. Si elle n'est pas trouvée à l'échelon européen, qu'elle soit au moins trouvée au niveau national. Et tout à l'heure, on évoquait à la radio une taxe qui pourrait permettre de lever dans un premier temps 500 millions d'euros et alors que la contribution de ces GAFA devrait plutôt être de l'ordre de 3 à 4 milliards. Mais si on peut arriver à remonter ces taxes pour ces commerces-là, pour faire bénéficier aux autres d'une espèce de bouffée d'oxygène ou de mesures d'adaptation, parce qu'effectivement, faire en sorte qu'un commerçant se mette à développer une activité numérique à l'intérieur de son commerce, il ne s'agit pas de substituer l'un par l'autre, mais d'additionner des compétences ou des formes de distribution dans un seul et même commerce, ça nécessitera des investissements, ça nécessitera du conseil, et il serait logique que ce soit quelque part les taxes prélevées sur le commerce dématérialisé qui amorce la pompe et qui permettent de faire face à ces mutations. Jacques.
Simplement ajouter que dans le cadre d'Action Ville, nous travaillons sur l'Action Cœur de Ville, nous travaillons sur le e-commerce, et il est indispensable que, soit avec les vitrines ou avec le commerce d'Épernay, on arrive à créer des sites marchands, parce que c'est ce qui manque actuellement au commerçant indépendant, parce qu'il n'a pas le temps ni la possibilité ni les moyens de créer ces sites-là. Il faut qu'ils soient aidés justement pour pouvoir être sur le e-commerce et avoir un site marchand, parce que c'est là qu'il pourra maintenir ou développer son chiffre d'affaires. C'est très important que le commerce de centre-ville mette en place ce type de e-commerce, parce que c'est là qu'est l'avenir ou le développement des commerces de centre-ville. On le voit dans la grande distribution qui se met vraiment sur ces créneaux-là, et là, il faut que le commerce indépendant s'y mette. Alors, c'est vrai que c'est difficile, parce que le commerçant, il n'a pas de temps vraiment à consacrer à ça.
Il n'a pas forcément cette culture du numérique.
Il n'a pas toujours la culture, justement, du numérique. Il faut qu'il y ait des formations, il faut qu'il y ait des aides pour mettre en place et qu'il puisse consacrer du temps à cette nouvelle activité. C'est là qu'il pourra maintenir ou développer son chiffre d'affaires avec des offres concurrentielles et plus intéressantes, parce que tout le monde va sur Internet et regarde ce qui se passe sur nos écrans. C'est là qu'est le commerce demain.
Bien, oui, un dernier mot. Allez-y.
Merci. Pardon. Merci, monsieur le maire. Concernant les GAFA, qui viennent d'être évoqués, enfin les taxes, etc., j'ai tendance à penser qu'on se trouve dans la même situation lorsqu'il s'agissait de taxer les transactions financières, etc., il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on n'a pas abouti sur grand-chose. La montagne, elle n'a même pas accouché d'une souris, c'est un souriceau. Les GAFA, il s'agit, pour moi, de mon point de vue, de volonté politique réelle. S'il y avait une réelle volonté politique au niveau national, je pense qu'on arriverait à avancer. On se cache toujours derrière l'Europe. Quand c'est pas l'Europe, c'est sur des questions hautes techniques, etc. Donc ça, c'était juste une remarque.
Je réponds juste sur ce point-là, si vous me le permettez.
Ouais,
non, je pense pas qu'on se cache à l'Europe. Le problème, c'est que ce commerce étant très largement mais ce commerce étant dématérialisé, il se trouve que les sièges sociaux de ces sociétés sont souvent dans d'autres pays européens qu'en France, et que leur technique, elle est simple, c'est que, étant donné que l'activité de commerce est dématérialisée, ils déclarent en fait leurs profits dans les pays qui taxent le moins, et comme par hasard, dans les pays qui taxent le plus, ils n'ont que des charges. Enfin, je schématise, mais grosso modo, ils sont en Irlande quand ça les arrange, ils sont en France quand ça les arrange, mais d'où la proposition qui avait été faite par un groupe de parlementaires qui consistait à dire il y a au moins des choses physiques qui se passent chez nous de la part de ces GAFA. Des livraisons, on peut les identifier. Deux, les entrepôts. Quand l'entrepôt d'Amiens d'Amazon qui a ouvert, je crois qu'il fait une quinzaine d'hectares, voilà, on n'a qu'à appliquer une taxe au mètre carré pour les entrepôts. Là, c'est physique. Là, ils ne pourront pas contester qu'ils ne sont pas en France. Donc c'est probablement par des astuces de ce type-là qu'on arrivera à trouver des solutions, parce qu'effectivement, le nombre d'actes et le chiffre d'affaires, il ne va pas forcément être déclaré sur le site. Benoît me passe un article en m'indiquant que la France prélèvera la taxe GAFA dès le 1er janvier. C'est une annonce du ministre de l'économie. Tant mieux. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit pas une taxe au rabais, qui soit effectivement de 400 ou 500 millions, alors qu'elle devrait logiquement, s'ils étaient des industriels, s'ils étaient des commerçants implantés, elle serait peut-être de 3 ou 4 milliards. Mais il faut commencer, et il faut que, effectivement, une pression forte soit exercée par l'ensemble des commerçants et l'ensemble de ceux qui subissent cette concurrence frontale pour que ces activités soient taxées. Il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas. Même si c'est compliqué, parce que forcément, qui dit dématérialisé dit que vos flux se baladent en Europe entière. Et comme par hasard, ils atterrissent tous en Irlande du Nord, où l'impôt sur les sociétés est ridicule, pour ne pas dire inexistant. Claude. Pardon, vous n'avez pas fini. Excusez-moi.
Pour revenir au commerce du centre-ville, là, c'est une mesure court terme, et ça pose pas de problème concernant la deuxième heure de stationnement gratuit. Et en même temps, je revenais, vous l'avez évoqué, sur la réunion que nous avons eue la semaine dernière, le comité de pilotage sur la revitalisation du centre-ville, etc. Et là, j'ai cru comprendre, alors en même temps avec un agenda, un calendrier très, très court, en quelque sorte, j'ai cru comprendre que, par exemple, les vitrines d'Épernay qui étaient présentes et qui étaient sollicitées n'avaient pas grand-chose à proposer. Ça m'a surpris, déjà. Et est-ce que ça correspond bien à la réalité ? Alors, il est vrai, je le rappelle, l'agenda est court, hein, puisque je crois que c'est, il a été dit que ça devait être déposé pour le 30 janvier ou quelque chose comme ça. Les dossiers.
Non, ça c'était le dossier FISAC. Mais
oui, même le dossier
l'action Cœur de Ville va bien au-delà. Mais non, je.
Ah oui. Effectivement, ça m'a pas échappé. Hein.
Non, j'ai pas la même impression que vous parce qu'en fait, on avait participé au mois de juillet dernier avec plusieurs commerçants à cette réunion à la MVA. Et il y avait eu un certain nombre de remarques intéressantes. Il y a des axes de travail qui sont mis en place. C'est vrai que ce n'est pas forcément le bon moment en ce moment pour réunir les commerçants, parce que c'est une période dans laquelle ils sont évidemment dans leur commerce et il faut qu'ils le soient. Mais je pense qu'entre aux alentours du mois de février et mars, on aura un peu plus de temps libre les uns les autres pour justement essayer d'élaborer une stratégie qui passe, comme l'a dit Jacques, au fait qu'il faut impérativement que le commerce local, et ça vaut pour tous les commerces locaux de Ville-de-France, se dotent d'un certain nombre d'outils qui leur permettront, non pas de concurrencer Amazon, mais au moins de résister, de mieux satisfaire le chaland, et en même temps de résister à l'attirance qu'ont un certain nombre de clients potentiels vers le net. C'est sûr que Internet permet d'être livré n'importe quand. Aujourd'hui, les commerçants n'ont pas de site de livraison. Vous pourriez commander potentiellement chez votre commerçant. Je prends l'exemple d'un couple d'actifs qui travaillent tous les deux. Le temps qu'il leur est réservé pour aller faire les courses est extrêmement contraint sur une semaine si on intègre leur contrainte horaire. Bon, pouvoir commander de chez soi un certain nombre de choses et pouvoir les récupérer ou les faire livrer chez soi ou les récupérer chez un autre commerçant qui fait dépôt de messagerie, c'est quelque chose qui est extrêmement facile quand on s'appelle Leclerc, quand on est dans la grande distribution avec maintenant les formules de Drive. C'est extrêmement facile pour Amazon et d'autres, Alibaba et d'autres. Il faut impérativement que les commerçants puissent travailler collectivement sur des outils comme cela, parce qu'on ne peut pas imaginer que chaque commerçant invente sa propre solution. C'est donc des démarches collectives qu'il faut initier. Oui, mais avec les moyens du bord. Mais ce qui manque, c'est une visibilité. C'est-à-dire qu'il faut, à côté du centre-ville physique que nous avons, il nous faut un centre-ville virtuel. C'est-à-dire que les gens qui sont immobilisés pour une raison ou pour une autre doivent pouvoir commander sur un site Internet toutes les courses ou tous les achats dont dispose le commerce local. Je citais une expérience personnelle où il m'est arrivé d'aller chez un commerçant qui disposait d'un outil et d'un support logistique où, en allant chercher une paire de chaussures, cette paire de chaussures, il ne l'avait pas. Il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous la voulez, essayez-la dans une autre teinte et dans 48 heures, vous l'aurez chez vous. Donc ce genre d'outil qui permet à un commerçant de ne jamais dire non et de dire, écoutez, je ne l'ai pas en boutique, mais dans 48 heures, vous l'avez, c'est toute une organisation logistique. C'est souvent une organisation collective qui permet aux commerçants de pouvoir dire, attendez, regardez ce que fait l'apostrophe au niveau des livres. Si vous allez acheter un livre à l'apostrophe et qu'il ne l'a pas, ils vous proposent instantanément de vous le commander. Et l'organisation des librairies est telle qu'ils ont des livraisons extrêmement comme les pharmaciens, c'est deux fois par jour. Chez les libraires, c'est extrêmement rapide. Et effectivement, votre bouquin, non seulement vous l'avez, mais vous avez un petit mot chez vous où on vous a dit que votre bouquin est arrivé, où ils vous l'envoient, où vous passez le chercher en boutique. Et c'est vrai que ça simplifie terriblement l'acte d'achat. Il faut que les commerçants se mettent à ce genre d'outils aujourd'hui. Sinon, effectivement, ils seront très vite dépassés par des gens qui sont capables demain de vous livrer à 22 heures. À 7 heures le matin, et donc de vous assurer un service optimal sans même que vous ayez à vous déplacer. Claude.
Oui, je ne voudrais pas allonger davantage le débat, simplement, effectivement, il faut qu'on dise aussi ce qui est conjoncturel et qui pèse énormément sur le commerce de centre-ville, de ce qui est quand même une forte tendance qui est l'e-commerce, c'est une mutation qu'il va falloir travailler. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises parce qu'on voit bien que les grandes surfaces passent des alliances avec les GAFA et que si le centre-ville ne se structure pas, il sera en grand danger. Tu as évoqué le concept existe, c'est le concept de conciergerie. Et on peut penser qu'à l'échelle de notre ville, on peut imaginer ce genre d'outil qui permet d'interface de manière dynamique. Moi, je voulais simplement ajouter le fait qu'on est conscient également sur du structurel. Et au niveau du SCOT, donc nous l'avons inscrit sur le fait que le schéma d'équipement commercial doit être repensé avec vraiment la manière de contenir les grandes surfaces et de geler les évolutions et de les soumettre à un comité de pilotage qui couvrira tout le territoire afin qu'il n'y ait pas de dérive. Donc on l'inscrit véritablement dans une volonté structurelle de maîtrise du développement avec ces risques de dérive qu'on connaît.
Merci. Donc je vous propose d'abord de voter sur le principe de ce rapport sur table que je vous demande évidemment d'accepter. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous en remercie. Et donc de voter la mise en place d'une deuxième heure gratuite de stationnement pour les fêtes. Les fêtes au sens extensif, puisqu'on ne s'arrête pas au 31 décembre, mais on englobe le mois de janvier. Pas d'opposition. Pardon ? Oui. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je repasse la parole à Christine Mazzi pour le rapport 2.9.
Merci. Il s'agit donc de la décision modificative de numéro 5 pour cet exercice 2018. Donc, concernant le budget ville et la somme de 318 600 euros, il s'agit tout simplement d'une régularisation d'écriture comptable qui était liée à une provision d'une somme de TVA pour le contentieux Terre Rouge qui a été terminé en 2017. Donc, la ville avait provisionné cette somme. Et cette dépense s'équilibre par une recette exceptionnelle qui a été perçue par la ville dans le cadre du contentieux qui a été gagné lors des travaux de la place Bernard, enfin lors de la, c'était les travaux avec la fontaine de la place Bernard-Stasi. Concernant le budget parking, donc deux écritures. Donc une première, un montant de 3 000 euros qui est inscrit à la fois en dépenses et en recettes et qui s'explique tout simplement par l'annulation d'un titre et l'émission d'un autre titre pour une modification de changement d'intitulé. Et puis une somme de 2 500 euros qui concerne un dépassement de chapitre lié aux charges de personnel et qui est compensée par une recette supplémentaire de stationnement. Et puis concernant le budget du chauffage urbain, donc c'est un budget qui est en équilibre par un ajustement des dépenses et des recettes puisque le complément de crédit est lié à un ajustement entre le prix d'appel, la consommation et le prix réel qui est refacturé au client.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.10. Jacques Fromm.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'émettre un avis favorable à la proposition de Monsieur le maire d'autoriser les commerces qui le souhaitent à ouvrir conformément à la réglementation 12 dimanches par an. Comme indiqué dans le rapport en votre possession, ces dérogations au repos dominical devront être mises en œuvre dans le respect des dispositions législatives et réglementations en vigueur. Cette liste a été établie en tenant compte des différents souhaits émis par les commerçants via les vitrines des Pernets et des gérants d'établissements.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Une opposition ? Ah, il n'est pas là.
C'est une envie diplomatique.
Bon. Donc, abstention ou opposition ?
Je vais voter contre, j'ai voté contre.
Bon. Donc, un vote contre, et puis on demandera tout à l'heure à monsieur ce qui vote. Avis contraire. Donc, un vote, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.11, Jacques Fromm.
Chers collègues, je vous...
Il y a une substitution. Hein, le rapport a été rédigé, mais il existait, il est simplement modifié. Donc, le rapport que vous avez sur table de 11 se substitue au premier rapport... l'objectif étant de gommer le terme « pay by phone » qui est un terme commercial qui n'avait pas été utilisé dans le...
Alors, chers collègues, je vous propose d'inscrire la ville dans une démarche novatrice en proposant à ses administrés le paiement du stationnement à distance par téléphone. Il s'agit d'offrir à tous les usagers la possibilité de pouvoir utiliser une solution de paiement dématérialisée par mobile de manière sécurisée et cryptée. De telles solutions offrent en outre de nouveaux services, comme la possibilité de prolonger son stationnement sans avoir à se déplacer à l'eurodateur, de s'acquitter de la redevance de stationnement à la minute et de pouvoir stopper le décompte de son temps de stationnement et ainsi adapter son coût à son besoin.
Merci. Monsieur Richard, le rapport précédent, c'était les ouvertures de commerce le dimanche.
Je m'en excuse.
C'est, non, mais ça... C'est vote contre ou abstention ? Monsieur Angers a voté contre.
Deux abstentions.
OK.
Non, excusez-moi. C'est pour les dimanches.
Oui.
Une abstention.
D'accord. OK. Donc le vote est modifié sans qu'on reprocède à ce vote. Donc oui, là, là, le projet que vient de vous présenter Jacques Fromm est tout à fait intéressant. On peut admettre que l'utilisation des smartphones a quelques avantages parfois. Là, en l'occurrence, effectivement, le fait de pouvoir payer son stationnement par un smartphone, de pouvoir éventuellement à distance, si on est encore chez le coiffeur ou chez le dentiste, de pouvoir prolonger son stationnement à distance de 15 minutes, voire une demi-heure ou plus, sans avoir à repartir faire de la monnaie, ce qui nous est tous arrivé au moins une fois, c'est un avantage certain, d'autant plus que le véhicule est géolocalisé, donc on peut parfaitement s'adapter à la zone dans laquelle on se trouve, et c'est pour le coup un vrai élément de confort. J'ajoute que l'application en question permet de rendre systématique le premier quart d'heure gratuit, puisque le décompte se fait à partir du début de la 16e minute, et donc quelqu'un qui effectivement se stationne et déclenche son stationnement, s'il ne reste que 13 ou 14 minutes, il n'aura rien de débité sur son compte, alors que s'il passe à la 16e minute, évidemment, automatiquement, le décompte se fera comme ça aurait été le cas de manière physique. Donc je pense que c'est véritablement là aussi une innovation qui doit permettre de aux uns et aux autres de gérer au mieux leur stationnement, de rallonger quand c'est nécessaire. Quand pareil, si on revient plus tôt à sa voiture, ben, on est comptabilisé exactement pour le nombre de minutes stationnées et pas pour la demi-heure qu'on a payée en trop. Donc je pense que c'est un système qui devrait être plébiscité par les clients et par les commerçants. Oui, sachant que le quart d'heure, c'est la collectivité qui l'accorde, ce n'est pas la société en question. Hein, donc c'est, ça correspond à la volonté qui a toujours été la nôtre. Des questions, monsieur Durançois ?
Oui, deux questions. Le coût total de cette mise en place. Et deuxième question, est-ce que le paiement monnaie ou carte bleue sera toujours effectif ou est-ce qu'il n'y aura plus que cette solution ?
Jacques ?
Bien sûr, le paiement carte bleue restera, ou monnaie restera sur
les... À l'eurodateur ?
Traditionnel. Ça ne sera pas supprimé. C'est une offre supplémentaire. Et on voit qu'elle se développe de plus en plus. Les villes qui ont déjà mis en place un système équivalent ont de plus en plus de paiements par ce moyen-là.
C'est si vous allez par exemple à Reims, vous pouvez sur le parcmètre à la fois payer par votre smartphone avec les coordonnées de l'application ou alors mettre de l'argent et sortir un ticket.
Chalon l'a appliqué il y a déjà longtemps.
Hein. Ouais. La seule contrainte, c'est qu'il faut effectivement entrer la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Ça, c'est pas compliqué à faire. Hein. Ça se fait très bien ou sur un smartphone ou sur le clavier du parcmètre et ça fonctionne très bien. Ça a fait ses preuves aujourd'hui, donc je pense que c'est quelque chose qui est marrant. Oui. La personne qui n'aurait pas de smartphone, par exemple, peut continuer à payer à l'eurodateur comme elle le fait. Et elle bénéficiera de la même tarification. Il n'y a pas de régime discriminatoire. Oui.
Ce point a été évoqué dans deux commissions différentes. J'ai posé à chaque fois quel était le coût de l'application et j'ai eu deux réponses différentes. Alors, quel est le coût final de l'application ?
Je vous redonnerai le chiffre, parce que je n'ai pas pris mon document là ce soir, mais le coût, il est à la transaction, en fait.
Oui, c'est donc vous m'aviez dit 0,0415.
C'est ça.
Et donc, Madame Mazzi m'a donné un autre chiffre.
En fait, je vous avais déjà dit que nous ne parlions pas de la même chose. Le petit montant que je vous avais donné, qui était de l'ordre de 40 centimes, quelque chose, c'était par rapport à... vous pouviez, au coup par coup, réaugmenter... la durée. Et là, c'était une volonté de votre... C'était un service supplémentaire qui était facturé. Ça n'était pas le coût de la transaction réclamé par la société. Nous ne parlions pas de la même chose.
Alors, ce qui est aussi facturé de façon supplémentaire, c'est le coût d'alerte, qui est de 0,15.
C'est ça, le coût d'alerte. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez une alerte qui se fait 10 minutes avant la fin de votre stationnement. Si vous souhaitez avoir une alerte à 5 minutes et je crois à l'autre à 2 minutes, vous avez un surcoût de 0,15, mais là c'est vous qui le choisissez.
C'est optionnel.
C'est une
option. Si vous voulez que le parcmètre vous rappelle que votre heure arrive à échéance, c'est un service supplémentaire que vous demandez qu'il y ait des avis de facturation. Si vous faites vous-même vos calculs parce que vous avez vous-même rentré dans votre alarme de téléphone
la prestation en question, elle n'est pas tarifée.
Voilà. Donc, ce que nous avions évoqué en commission administration générale et finances, ce coût de 15 centimes supplémentaires, c'était le service d'alerte que vous pouvez demander ou pas. Alors, donc, ça n'était pas du tout le coût de la société.
Le plus simple, c'est qu'on vous fera parvenir une petite fiche récapitulative sur le fonctionnement. Comme ça, vous en ferez les ambassadeurs les uns les autres, puisque je suis persuadé que tout le monde qui y aura goûté adoptera cette formule, parce que c'est tellement agaçant de se trouver contraint d'aller faire de la monnaie chez un commerçant parce qu'on n'a pas de pièces qui conviennent, et c'est toujours un peu rageant. Bien, on a voté ou pas ?
Non. Par contre, on ne m'a pas répondu à la question, à savoir le coût de la mise en place. Est-ce que les ordinateurs actuels vont être adaptés ? Est-ce qu'ils vont être remplacés ? Le coût de cette structure, combien ça va coûter à la collectivité ?
Il n'y a pas de coût supplémentaire. Sur l'Eurodator, vous allez trouver une chemise qui va être placée dessus, adhésive, qui va indiquer la façon dont vous devez procéder. Mais c'est tout. L'Eurodator, il n'y a pas de lien avec l'application.
C'est-à-dire que vous mettez l'argent dans l'Eurodator ? Vous appelez le numéro qui est indiqué sur le redateur, et à ce moment-là, vous ne passez plus par le redateur, mais vous passez par votre smartphone. Et à ce moment-là, c'est... Ah non, mais sûr que non.
Elle le fait le coût, il est à chaque transaction.
Ouais.
Le 0,0415.
À chaque transaction, il y a 0, quelque chose qui part à la société en question.
C'est ça. C'est uniquement là.
Elle se paye sur le tarif, sur le stationnement. Alors, on peut considérer que quelque part, c'est un coût pour la collectivité dans la mesure où au lieu de toucher 1 euro, on touchera peut-être que 0,99,8 euros, je dis n'importe quoi. Mais pour l'usager, c'est qu'il paye à la collectivité ou qu'il paye à cette société, il ne voit pas la différence. Il n'y a pas un surcoût.
C'est 0,7,045. C'est ça. Par paiement, c'est ça.
Quel que soit le coût du paiement.
C'est ça.
Mais par contre, bien, sur ce rapport, avis contraire ? Abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 212. Benoît Moitier.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, nous avons observé depuis quelques années une multiplication substantielle des locations saisonnières de logements. Comme la loi nous le permet désormais, nous avons voté un principe... Il y a quelque temps maintenant. Et là, l'idée, c'est d'instituer donc la procédure d'autorisation préalable du changement d'usage des locaux destinés à l'habitation afin que ces derniers soient loués pour des courtes durées aux touristes, dès lors que ceux-ci, bien évidemment, n'y élisent pas domicile. Donc, vous savez que normalement, on a plusieurs usages en matière de droit de l'urbanisme. Et lorsque l'on doit passer d'une catégorie à une autre, par exemple, l'habitation à local professionnel ou habitation à commerce, il y a une autorisation d'urbanisme à solliciter. Là, pour le coup, on est sous une sous-catégorie de l'usage d'habitation, puisque ça restera une maison d'habitation, mais en l'occurrence, par ce changement d'usage, nous pourrons ainsi mieux appréhender, on va dire, le phénomène des meublés de tourisme. Car aujourd'hui, il y a un système déclaratif qui existe pour ceux qui font des chambres d'hôtes dans leur résidence principale. Mais par ailleurs, il y avait quelques manques que la loi donc a comblé, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, comme d'autres villes en France d'ailleurs, de nous lancer dans cette procédure d'enregistrement des meublés de tourisme. Nous attendions donc l'autorisation du préfet, cette autorisation nous a été donnée au tout début du mois.
Merci. Des questions ? Bon, là, c'est aussi une évolution. On évoquait tout à l'heure le commerce dématérialisé. Aujourd'hui, effectivement, bon nombre de personnes se transforment en hébergeurs de touristes. Dans des conditions parfois assez remarquables et puis dans des conditions parfois plus problématiques. Et le fait justement de pouvoir identifier grâce à cette déclaration les personnes qui mettent à disposition des logements meublés nous permettra aussi, je pense, de mener une action de manière à nous assurer d'abord qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et puis qu'ensuite qu'on s'assure que les logements offerts à la location soient des logements décents. Et pas qu'on n'ait pas affaire à des vendeurs de sommeil, non plus cette fois pour des familles en difficulté, mais pour des touristes un peu désorientés et surpris par des annonces sur Internet qui sont parfois magnifiques et la réalité est très différente. Monsieur Angers.
Simplement, l'on s'adresse aux propriétaires, mais il peut aussi y avoir des cas de sous-location, j'imagine.
Oui, mais en règle générale, dans les baux de location, il est fait interdiction de sous-louer. Alors après, ça devient un problème de droit privé. Il y a eu cette situation célèbre, je crois que c'était à Lille, où on en a parlé lors des vacances de cet été, où une personne qui sous-louait son appartement a été condamnée à payer à son propriétaire la totalité des sommes qu'elle avait indûment encaissé, qui était de l'ordre de 80 ou 100 000 euros, enfin une somme considérable. Mais cette personne, dans son bail, il lui était fait interdit de sous-louer. Elle a sous-loué, en fait, a utilisé via une plateforme comme Airbnb ou une autre. Elle a sous-loué son appartement alors même qu'il lui était fait interdiction et elle a dû indemniser le propriétaire du montant de la totalité des sommes perçues. Benoît.
Oui, en l'occurrence, la sous-location est prohibée par principe, mais elle peut être autorisée conventionnellement par le bailleur, par le propriétaire, auquel cas le bailleur donc, auquel cas le bailleur pourrait lui-même déposer la demande d'urbanisme et permettre la sous-location à son preneur principal. Donc ça après, ça peut faire l'objet effectivement de conventions ad hoc, il n'y a pas de difficulté. Et justement, le fait de pouvoir instaurer ce système de déclaration, c'est aussi une manière pour nous de pouvoir mieux contrôler ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, je vous avouerai qu'on est quand même, mis à part les propriétaires, enfin en tout cas ceux dont les résidences propriétaires et qui élisent leur résidence principale et qui font ensuite les déclarations en mairie, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus, mais pour autant il y a un phénomène qui est assez aujourd'hui encore assez nébuleux de notre point de vue, donc un peu de contrôle administratif ne fera pas de mal, hein, d'autant que c'est du déclaratif, il n'y a pas non plus il n'y aura pas de police du maire quant à cela. En revanche, pour les hébergeurs qui ne respecteraient pas effectivement un certain nombre de conditions liées notamment aux notions de logement décent et autres, là pour le coup ils pourraient perdre non seulement il pourrait y avoir une action contre eux en termes de responsabilité, mais du coup il pourrait y avoir aussi une déchéance de l'autorisation administrative, donc c'est quand même plutôt intéressant. Par ailleurs, c'est aussi pour nous un moyen de collecter un peu plus de taxes de séjour. Et c'est en lien avec la délibération que nous avons adoptée au mois de septembre dernier. J'en terminerai également pour vous dire que cette démarche, elle était quand même très attendue de la part des hôteliers, des professionnels donc de l'hébergement touristique, si j'ose dire, qui trouvaient quelque peu, comment dirais-je, il y avait une réelle distorsion entre les règles qui leur sont appliquées, qui sont tout de même particulièrement contraignante, et la liberté dans laquelle on pouvait louer des chambres d'hôtes à titre de personnes physiques.
Merci. Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.13. Benoît Moitié, ça concerne l'Office du tourisme.
Oui, merci Monsieur le Maire, chers collègues. Donc, en juin dernier, nous avons décidé du transfert de la compétence tourisme à la communauté d'agglomération et ce sera effectif le 1er janvier prochain. Et là, il vous est proposé d'autoriser notre maire à signer le procès-verbal de transfert des biens utilisés pour l'exercice de cette compétence et ce, conformément à la loi.
Donc il s'agit directement d'une conséquence du transfert de compétences. Je rappelle que la compétence tourisme est désormais exercée par la communauté d'agglomération, exception faite de l'Office du tourisme qui, l'année dernière, à la même date, n'avait pas encore eu son label. Et donc on attendait l'obtention du label pour faire ce transfert, comme le label est arrivé début janvier, de mémoire, station de tourisme est arrivée début janvier, on a donc reporté d'un an et donc la compétence tourisme sera pleine et entière et désormais assurée par la communauté d'agglomération. Des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Pardon? Une abstention? Je vous remercie. Nous passons au rapport 3.1. Magali Carbonel.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la réforme des
scolaire en 2013 a impulsé l'élaboration d'un PEDT, projet éducatif du territoire. Le décret de juin 2017 permet de façon dérogatoire le retour à la semaine de 4 jours, et c'est le cas de la ville d'Épernay. D'autre part, le ministère de l'Éducation nationale a présenté en juin dernier un plan mercredi qui vise à la mise en place pour la collectivité d'accueil de loisirs qui propose des activités ambitieuses et toujours en relation avec les écoles. Aussi, donc, nous avons dû actualiser notre PEDT initial. Et voilà, c'est sensiblement le même, mais il est enrichi des différentes activités qui sont proposées aux enfants le mercredi, que ce soit dans les centres sociaux, dans les écoles ou à la maison des parents et de l'enfant. Ainsi que ce nouveau projet à l'école Marx d'Ormois avec nos ateliers du mercredi. Les objectifs sont toujours les mêmes. Voilà, aussi, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions relatives au PEDT et au plan mercredi.
Merci. Oui, ça vise notamment la modification du PEDT, nous permettra d'obtenir des financements de l'État et de la CAF. Hein. Sans cette modification, nous risquions de passer à côté, ce qui aurait été un peu dommage au regard de la qualité des animations proposées. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Perrin.
Alors, dans le cadre du PEDT, dans le cadre de... Les tarifs sont toujours les mêmes, ils n'ont pas été augmentés depuis l'année dernière, ce sont les mêmes. En ce qui concerne les objectifs, ce sont les mêmes aussi. Favoriser l'épanouissement, premier objectif, favoriser l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Deuxième grand objectif, favoriser la réussite de tous les enfants et prévenir le décrochage scolaire. Et troisième, consolider l'apprentissage des valeurs citoyennes des enfants. Les tarifs n'ont pas été augmentés, ce sont exactement les mêmes que l'année dernière pour le périscolaire.
Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.2, Abida Sharif.
Merci, Monsieur le maire. La convention d'objectifs et de moyens entre le club de prévention et la ville d'Épernay, ainsi que celle des clubs de prévention et des CCS, arrive à échéance. Donc, on vous propose de faire une convention tripartite entre ces trois. Je vous propose donc d'approuver les termes de cette convention annexée au rapport en votre possession. Donc, on avait une convention, la ville et le club, et le CCS et le club. Donc, maintenant, on vous propose d'en faire une tripartite, comme celle qu'on fait avec le département, le club et la ville d'Épernay pour la prévention spécialisée. Et merci. Là, ça sera dans tous les domaines avec le club.
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons à une autre... convention d'objectifs et de moyens, Jacques Fromm, rapport 4.1.
Chers collègues, je vous propose de renouveler la convention d'objectifs et de moyens avec la Fédération pour la promotion commerciale d'Épernay, celle-ci arrivant à échéance le 31 décembre 2018. Cette convention précise notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention municipale, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. Je vous propose donc d'approuver les termes de cette convention annexée au rapport en votre possession.
Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Pierre Marandon, rapport 4.2.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit en fait d'une délibération que l'on présente chaque année à cette même époque lors du dernier conseil municipal de l'année. Je vous propose donc d'adopter le tableau de valorisation de mise à disposition des installations sportives et le principe de compensation correspondant au profit des associations sportives sparnassiennes, en précisant bien sûr qu'il s'agit d'une opération blanche pour les clubs qui font apparaître cette valorisation dans leur compte, en charge et en recette.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est un rapport classique puisque tous les ans on le vote à la même période. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Christian Demanger, un rapport 4.3.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, depuis 2011, vous savez qu'une convention a été adoptée avec la ville de Fadane-Gourma, une convention de coopération, et depuis 2017, il s'agit plutôt de travailler avec les acteurs du domaine de l'adduction en eau potable et assainissement. Je vous invite donc à affecter les 9 000 euros du Fonds de coopération 2018 pour cette action concernant l'eau potable et assainissement, telle que indiquée dans la délibération.
Merci. Des questions ? Oui.
Oui, monsieur Lefebvre. Depuis deux ans, donc, le fonds pour Fada Ngourma a diminué de 1 000 euros. Initialement, il y a 7-8 ans, 2011, nous avions dit que nous aidions environ à 10 000 euros. Donc, nous constatons cette diminution, alors que l'Afrique a de plus en plus besoin de l'Europe. Et j'en ai pour preuve, récemment, il y a une quinzaine de jours, j'y étais, je peux vous dire que l'eau est un problème. Une pompe était cassée dans un village de 1500 habitants. Il fallait simplement $60 pour la réparer. Et le village ne pouvait pas se payer ces 62. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire preuve d'humanité et revenir à 10 000 euros, c'est un minimum, je crois, si on veut maintenir la population sur le territoire de l'Afrique et éviter tous les drames de l'émigration. Merci.
Je partage ce point de vue et le fonds sera augmenté dans le cadre du budget 2019. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Oui.
Il faudrait peut-être en oublier que l'AGLO a voté la loi Autasantini qui se charge aussi de mettre en place des...
Oui, mais qui n'a pas vocation à se substituer à l'intervention de la ville, mais à s'additionner.
Non, c'est un plus, donc à ne pas oublier qu'on a cette action.
C'est une loi.
Oui, mais on l'a mis en place.
Oui. On fera d'ailleurs le point sur ce sujet prochainement. Je propose le vote du rapport, mais effectivement, il y aura une augmentation sur le budget 2019. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Rapport 4.5, Christian Demongin.
Il s'agit cette fois d'une convention de partenariat entre la ville d'Épernay et le Saint-Lazare dans le cadre de l'organisation d'un Épernay Spectacle. Et cet Épernay Spectacle, le titre, c'est « Art » qui sera donné le 23 janvier 2019. Dans le cadre de cette convention, je vous propose d'accorder une subvention de 14 000 euros pour ce spectacle.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.5, Christian Demongin.
5, 6 et 7, il s'agit une nouvelle fois de nouveaux mécènes que nous accueillons. La société de Castellane qui participe aux travaux à hauteur de 50 000 euros. La société Deutz qui participera surtout à la restauration du pressoir qu'on trouvera dans le bâtiment d'accueil, 20 000 euros. Et la société Joseph Perrier pour participation aux travaux, 15 000 euros.
Merci. Je me félicite évidemment de ces contributions. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Angers.
Oui, je crois qu'on peut se féliciter de la participation de nombreux mécènes. De temps en temps, ça nous réconforte parce qu'on se dit c'est une partie de notre CICE ou de l'impôt sur la fortune qui revient sous cette forme, mais c'est tant mieux. Simplement, donc, de nombreux mécènes. Des aides substantielles et significatives de la part de l'État, de collectivités territoriales. Très bien. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de participer à une ouverture de plis, enfin, non pas une ouverture de plis, mais à une analyse d'un marché pour un lot. Je suis d'ailleurs assez étonné, je ne le retrouve pas dans les éléments que vous avez signés, concernant les vitrines.
Dans le dernier rapport.
Peut-être dans les décisions. Et j'ai été étonné de l'envolée des tarifs par rapport aux estimations qui étaient proposées par l'architecte qui nous encadre dans cette affaire. Un dépassement, il y avait deux lots, un dépassement de 400 000 sur 1,5 million. Un autre, un dépassement de 100 000 sur 600 000 au départ, en deux coups de cuillère à peau, ou plutôt en deux délibérations, on en a pris pour 500 000 euros. Au moment des travaux, j'avais fait la remarque à M. Brixy. J'ai dit, mais bon, par rapport à l'enveloppe globale, où en sommes-nous ? Après cette commission, j'ai échangé avec William Richard, qui m'a dit, ah, mais c'est pas la première fois, il y a déjà eu d'autres marchés sur lesquels il y a déjà un dépassement significatif de l'enveloppe. Bon, d'une part, il serait peut-être utile qu'à un moment on sache où on atterrit dans ce domaine-là, quelle est la nature du dépassement. Néanmoins, moi, je suis quand même assez étonné de ces écarts par rapport à l'estimation. Et bon, les argumentaires qui ont été soulevés, moi, je veux bien les entendre. Les argumentaires, c'était, bah oui, c'est des entreprises qui sont quand même spécialisés, qui sont sur des marchés internationaux, qui sont pris actuellement sur des marchés à Madrid, à Munich, etc., un petit peu partout en Europe. Donc Épernay, effectivement, c'est un petit peu loin et on en profite pour, compte tenu de l'activité qu'il y a par ailleurs, de faire monter un peu les prix. Bon, moi, je trouve que c'est effectivement un petit peu délicat d'avoir une enveloppe qui a été sous-estimée dans ce domaine-là. Et c'est pas parce que, effectivement, on a des opportunités de financement intéressantes par les éléments que j'ai cités tout à l'heure, dans le mécénat qui vient, je dirais, s'adosser à ce travail de financement et de budgétisation initiale de ce marché, mais bon, surtout l'impact des crédits apportés par les collectivités, l'État, etc. Pour autant, il faut penser au contribuable sparnassien qui est derrière, et je pense qu'il faut quand même qu'on soit attentif par rapport à l'atterrissage global que l'on aura par rapport à l'ensemble des lots. Donc je voulais vous faire part quand même de cette remarque qui m'a interpellé. Je profitais de cette délibération pour le faire.
Non, mais c'est une préoccupation qui est parfaitement légitime, qui est la nôtre également, et sur lesquelles on vous fera un petit compte-rendu prochainement avec effectivement un état d'avancement du projet, des difficultés rencontrées, des coûts avec des surcoûts sur certains postes et peut-être aussi des moins-values sur d'autres, de manière à ce que vous ayez en toute transparence toutes les informations concernant le projet du musée. Mais sachez qu'on est attentif à la question et qu'effectivement, on veille à ce qu'il n'y ait pas de dérive et que bon, il y a eu probablement quelques modifications qui ont dû être apportées au projet, on y reviendra sur des technologies liées aux audioguides et autres qui peuvent être de nature à engendrer des surcoûts, mais là pour le coup c'est des choix qui évoluent, mais on vous fera un rapport complet sur le sujet très prochainement. Pas d'autres questions sur le sujet. Oui, monsieur Richard.
Oui, pour préciser le propos de Jean-Paul Anger, il y a quelques... Enfin, je vais le dire différemment. On a eu une grosse séance de travail où il y avait à faire le choix concernant 9 lots. 9 lots. Hein. Le premier, sur les 9, pardon, 6 étaient sous-estimés par le maître d'œuvre qui est dans le Frenac, etc. Et j'ai même été amené à faire la remarque au maître d'œuvre, enfin à son représentant qui était là à ce moment-là, que en tant que maître d'œuvre, je m'interrogerai sur la fiabilité de mon travail. Parce qu'il y a des lots où c'est plus de 70% de dépassement par rapport aux estimations. Alors après, on nous répond que oui, on n'avait pas prévu ci, on n'avait pas vu que ça, etc. Or, à chaque fois, on nous a dit, on choisit des entreprises qui sont pointues dans leur domaine compte tenu des caractéristiques du château, hein, de l'édifice. Ça, on l'entend, mais se tromper à ce point, bafouiller, on s'est trompé, on ne savait pas, on a mal apprécié. Il y a des témoins ici. C'était les réponses qui nous étaient apportées. Et rien que sur ces 9 lots, je me souviens qu'on dépassait déjà de plus de 10% les estimations faites par les services et dans le cadre du, je dirais, du DCE. Donc, c'est quand même une, c'est quand même, et je rejoins tout à fait Jean-Paul, ça nous met dans l'obligation de bien suivre ce dossier afin qu'il n'y ait pas de dérapage trop important, et parce que Frenac, etc., sont des archis tout à fait respectables, hein, j'ai aucun problème. Par contre, le cabinet qu'ils ont mis à l'intérieur du groupement semble quand même quelque peu léger. Voilà, je le dis parce que ça a été un peu le sens de mon interrogation lors de cette commission du mois de juin, si ma mémoire est bonne.
Ok, on fera le point prochainement sur le sujet. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.1. Joachim Verdier, c'est bon, pourquoi ?
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vous propose d'émettre un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique ainsi que des restrictions d'usage sur le terrain appartement à la SOGSAE sur le lieu dit La Fertiline. Au vu du rapport d'inspection des installations classées du 5 octobre dernier, qui permet de réduire le périmètre d'isolement de 200 mètres à 10 mètres, tout en pérennisant les restrictions d'usage du site. Les détails des servitudes sont détaillés dans le rapport en votre possession.
Merci. Alors, c'est plutôt une bonne décision, parce qu'on avait autour de l'ancienne déposante, qui n'est plus en activité depuis au moins 10 ou 12 ans, on avait autrefois une servitude de 200 mètres, ce qui fait qu'on ne pouvait rien faire autour à 200 mètres. Et je pense que les services de l'État ont enfin compris que c'était peut-être un peu excessif, ce qu'on avait dit à l'époque. Et aujourd'hui, la servitude est ramenée de 200 mètres à 10 mètres, ce qui va du coup nous permettre d'envisager enfin des travaux sur le camp de la Fertiline, qu'on ne pouvait pas entreprendre puisqu'on était dans les 200 mètres et du coup on sort des 200 mètres. Et je pense que là-dessus, il y a du travail à faire. Et donc, la communauté d'agglo va saluer également de manière très positive cette décision qui est empreinte de beaucoup de sagesse par rapport au délire que nous avions préalablement. Je ne peux pas dire autre chose.
Oui, la bande de 10 mètres et puis avance de 200 mètres est-elle matérialisée pour empêcher les enfants, notamment les nomades ?
En théorie, oui. Mais le problème, c'est qu'on a là-bas affaire à des enfants qui s'affranchissent parfois des limites qui sont imposées. Et bien, quand vous avez une clôture et que vous la coupez, il y a eu plusieurs fois des atteintes au périmètre qui avait été défini. Bon, ce qui est important surtout, c'est que la reconnaissance par l'État que le risque qui avait été imaginé à l'époque, il était manifestement surestimé. Et en tout cas... le parapluie qui avait été ouvert, c'était plus un parapluie, c'était plus un parasol, c'était un parachute, effectivement. Donc,
Les risques pour les enfants sont quand même assez relatifs, hein, sachant qu'il y a quand même 80 cm de couverture d'argile et de terre qui ont été remis sur les terrains.
Il faudrait qu'il y ait des excavations profondes, c'est-à-dire qu'ils se mettent à creuser en profondeur pour être exposés à un risque. C'est ce qu'on avait dit dès le départ, dans la mesure où les matières sensibles qui avaient été identifiées avaient été recouvertes entièrement par une épaisseur d'au moins 80 cm ou 1 mètre, les risques pour celui qui était au-dessus étaient nuls. Aujourd'hui, l'État le reconnaît à demi-mot. Il aurait été souhaitable de le faire avant, ce qui nous aurait permis sans doute d'entreprendre les travaux beaucoup plus tôt. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au dernier rapport, rapport 5.2, Marie-Claire Bilbord.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'élaboration de l'agenda d'accessibilité programmée du chalet de l'Arcanière à Notre-Dame de Bellecombe, en Savoie, dont la ville d'Épernay est propriétaire. Je vous propose de déposer un nouvel agenda de mise en accessibilité de ce chalet avec une nouvelle échéance à l'automne 2024. En effet, le précédent agenda de septembre 2015 élaboré en tenant compte d'un projet de restructuration en concertation avec l'association gérant ce chalet, ne peut être réalisé dans les délais prévus en raison des difficultés rencontrées par cette association, les Amis de l'Arcanière. Je vous demande d'approuver cet agenda d'accessibilité.
Merci. Des questions ? Madame Perrin.
Comment ça se fait que ça recule à une horizon si lointaine que 2024?
Ben parce qu'en fait, nous espérions la vente de terrain jouxtant le chalet, vente de terrain qui était bien parti et qui finalement l'acheteur n'a pas donné suite. Et l'association elle-même n'ayant pas les moyens de faire face à ces dépenses, nous sollicitons un délai supplémentaire, comme la loi le permet, hein, pour justement s'assurer du financement de ces travaux avant de les entreprendre. Donc je pense que ces travaux en plus seront directement liés à l'usage qui sera fait du local au cours des prochaines années. C'est une question qu'il faut qu'on réexamine avec l'association pour pouvoir adapter l'investissement à l'usage réel de ce chalet. C'est pas la peine de faire des travaux surdimensionnés si l'activité continue de régresser et ne le justifie pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui devront être examinées sereinement avec l'association du chalet de l'Arcanière, et en fonction de ça, et en espérant en plus que les terrains dont nous bénéficions à côté puissent trouver preneur, ce qui finalement appènerait les moyens permettant de faire face à ces travaux.
Parce que d'un autre côté, si les locaux étaient accessibles, ça permettrait aussi à des personnes subissant un handicap d'y aller.
Oui, bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas forcément celles qui vont le plus facilement à la montagne. Je veux dire par là que je crois que si Jérémy Galateau était là, il me dirait qu'il n'a jamais eu de demande d'association d'handicapés, en tout cas d'handicapés physiques, pour aller dans ce chalet qui est effectivement construit sur plusieurs niveaux, qui a été pensé et conçu à une époque où la préoccupation n'était pas la même en termes de handicap. Pour autant, il faut qu'on se mette aux normes. Mais je pense qu'avant de se mettre aux normes, il faut savoir quel sera l'usage dans les années qui viennent de ce chalet, pour ne pas entreprendre des travaux qui s'avéreraient superflus si l'usage du chalet venait à changer du côté de l'association. Donc je pense qu'il y a un travail qui s'impose avec les membres de l'association pour savoir si elle doit être accessible en totalité ou si, par exemple, seul le niveau du rez-de-chaussée justifie qu'il soit accessible, auquel cas c'est simplement des chambres pour personnes handicapées qui doivent être aménagées au rez-de-chaussée, ou s'il faut que la totalité du bâtiment le soit, auquel cas il faudra nécessairement qu'il y ait un ascenseur. Mais ça, c'est l'utilisation qu'en fera l'association et le travail qu'on va faire avec elle. Alors l'association est l'utilisateur du chalet, nous on est le propriétaire. Donc il faut qu'on trouve là-dessus un terrain d'entente et qu'on fasse les estimations pour qu'on dépense au plus juste tout en satisfaisant aux exigences de la loi. Il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas en conformité avec la loi comme on le fait partout. Oui.
Oui, je précise que dans le précédent agenda d'accessibilité, il y avait quand même les sanitaires, les chambres, le cheminement intérieur et le cheminement extérieur.
Donc, oui, en plus, le cheminement extérieur nécessitant forcément des dérogations, puisque le chemin qui mène au chalet, il est d'une pente supérieure au maximum requis. Donc il faudra de toute façon qu'il y ait une accessibilité pour les personnes handicapées, et probablement une ou plusieurs dérogations sur certains points, parce que je ne vois pas comment le chemin qui mène au chalet qui est comme ça pourrait devenir comme ça. Ce n'est pas possible. Donc il y aura sans doute un dossier assez complexe à monter pour que le chalet lui-même soit accessible, quitte à ce qu'une voiture puisse monter jusqu'en haut, de manière à déposer une personne handicapée devant la porte, et donc limiter évidemment la contrainte que représente la topographie des lieux pour cette personne.
Oui, en commission, j'avais demandé le nom des nouveaux responsables. On m'avait dit qu'on me le donnerait ce soir.
Il est dans le compte rendu, mais je peux les donner.
Ah non, le compte rendu, je n'ai pas lu le compte rendu.
Je ne l'ai pas lu non plus.
Donc, je le lirai alors.
Donc tout le détail est dans le compte rendu.
Est dans le compte rendu.
Sur ce rapport, avis contraire, abstention, une abstention, le rapport est adopté. Nous passons au dernier rapport, compte rendu de décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. Avez-vous, mes chers collègues, des explications à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé? Pardon, allez-y, monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire, mais ça rejoindra notre propos, la question notre propos précédent concernant toujours Frenac Julien Architecte, où là on a une plus-value de 55 000 euros, enfin, ou de 54 600 euros, un avenant, quoi, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, puisqu'il est stipulé ainsi. Et donc, compte tenu des remarques que nous faisions tout à l'heure sur la faiblesse, si je puis dire, pas du travail d'architecture, mais la faiblesse au niveau des calculs, des éléments qui sont donnés pour passer lancer les marchés, voilà, je m'interroge, est-ce que, parce que là c'est bien un marché, c'est marqué de marché de maîtrise d'œuvre, hein. Voilà, alors donc ouais. C'était vraiment une interrogation.
On fera le détail parce que. Non, il y a des missions pour lesquelles il y a des surcoûts qui n'avaient pas été identifiés et il y en a d'autres pour lesquelles il y a des compléments de mission. En l'occurrence, s'agissant de celle-ci, mais on fera le détail de tous les lots en vous précisant ce qu'il en est à chaque fois. Là, en l'occurrence, c'est un complément de mission qui a été demandé au groupement Frenac Julien Architecte qui concerne la conception et le suivi des travaux pour la concession du restaurant. Donc, y compris le cahier précisant les choix des mobiliers intérieurs et extérieurs, et c'est par souci de cohérence, parce qu'on ne pouvait pas imaginer, en tout cas ça a été l'arbitrage que j'ai rendu sur le sujet, on ne pouvait pas imaginer d'avoir un restaurant dans ce musée qui soit conçu et entièrement décoré par quelqu'un qui s'éloignerait trop des choix qui sont faits par l'architecte du musée. Donc, par sécurité, pour éviter qu'on ait des choix trop divergents, on a confié à Frenac et Julien la conception et le suivi des travaux pour la concession du restaurant, de manière à avoir une harmonie d'ensemble. On aurait pu imaginer d'avoir des choses complètement différentes, avec des chartes couleurs complètement différentes, ce que tout le monde aurait souligné comme une aberration. Pour éviter cela, on a donc accru la mission de Frenac et Julien. Il y avait également... Comment ? Non, parce qu'il n'y avait pas au départ le restaurant. Oui, il n'y avait pas le restaurant. Donc là, on a rajouté en quelque sorte le restaurant. Parmi les nouvelles missions, il y a l'établissement et le dépôt des autorisations de travaux DRAC et ERP, la mission acoustique, étude éclairage et étude couleur, l'interface avec l'AMO du concessionnaire et l'interface sur l'identité visuelle du café. Mais je propose qu'on fasse une réunion sur le sujet, de manière à tout mettre sur la table, de façon à vous rassurer ou à nous inquiéter de certaines évolutions qui peuvent être, vous l'avez dit tout à l'heure, liées aussi au carnet de commandes des entreprises. Il est clair que quand les entreprises n'ont pas de boulot, on a des tarifs plus avantageux que quand elles en ont. Là, on touche à des entreprises parfois très spécialisées qui ne nous attendent pas et qui, j'allais dire, compte tenu de la pression, ont tendance à proposer des prix qui peuvent être 5, 10, 15 % plus chers que ce qu'ils auraient proposé en période de récession, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'autres questions ? Marc Lefebvre.
Et le point numéro 9, là, concernant la demande de soutien pour un audit énergétique.
Oui.
Par qui se fera cet audit ? Nous avons eu pendant plusieurs années un employé pour une plateforme énergétique. Nous avons deux caméras thermiques. Et qui fait donc cette audit ?
Alors, ça ne peut pas être, en l'occurrence... aujourd'hui, il existe une plateforme de rénovation énergétique qui est à la disposition des particuliers, mais qui ne travaille pas pour les communes. C'est la maison de l'habitat qui est installée rue des Berceaux. Là, il s'agit évidemment de bâtiments communaux et techniques qui sont totalement différents d'habitations principales. Donc on sollicite le soutien financier de la région Grand Est et de l'ADEME, qui sont jumelés à hauteur de 70% du montant de l'audit qui est réalisé par un bureau d'études spécialisé, j'imagine. Voilà. Donc il y aura une mise en concurrence des bureaux d'études. Le bureau d'études qui sera retenu, l'objectif, c'est d'obtenir 70% de financement. Mais là, on est sur des bâtiments qui n'ont rien à voir avec des habitations.
La plateforme, on l'avait financée pendant combien d'années ?
Ah oui, mais la plateforme ne concerne que les particuliers. Ouais. Là, on est sur des bâtiments de collectivité.
Oui, mais auparavant, c'était la ville qui finançait cette plateforme.
Non, c'était le pays. Ce qu'on appelait l'espace info-énergie. Maintenant, on a une plateforme de rénovation thermique avec trois personnes qui travaillent, qui ont pour objectif d'ailleurs d'inciter un maximum de particuliers à déposer des dossiers, mais ils sont qualifiés sur des bâtiments de particuliers. Là, on a affaire à des bâtiments techniques qui sont autrement plus complexes dans leur conception. D'autres questions ? Oui, monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. C'est une demande.
Oui.
Concernant le point 16, je crois que j'avais déjà évoqué aux années précédentes, au moins une fois, cette question, à savoir Concernant l'édition, la distribution, etc., du journal Épernay, enfin du magazine de la commune, d'avoir un peu, savoir un peu comment ça se passe en termes de coûts, parce que en fait, c'est bon. Alors là, le micro 5, régie publicitaire, moyennant 76% du montant de la recette perçue au titre, etc., etc. Si je comprends bien, les recettes publicitaires ne couvrent pas les.
Ah, jamais.
Ouais. Eh ben, non, il serait intéressant qu'on ait un peu le montant des recettes publicitaires aussi. Voilà,
d'accord.
Merci.
On vous les donnera, mais sachez que... Non, mais on vous fera, je demande à la communication de vous faire une note détaillée sur le sujet, mais il y a très peu de pages publicitaires. Hein. Oui, il doit y avoir deux pages publicitaires sur un... Bon, donc on est sur une pagination de 32 pages, je pense. 32 pages, il doit y avoir 2 ou 3 pages publicitaires. Si on voulait, on pourrait imaginer d'avoir plus de publicité, plus de recettes, mais il faudrait monter à 8 ou 10 pages, ce qui se ferait forcément au détriment du nombre de pages d'informations. Donc là-dessus, c'est un appoint, une recette d'appoint. C'est pas, on n'a jamais prétendu que le journal s'autofinancerait. Moi, j'ai toujours souhaité qu'il y ait une régie, parce qu'après tout, toutes les recettes qu'on peut obtenir, en l'occurrence elles sont au minimum de 1 200 € par numéro, si on multiplie par 10 ou 11, 11 numéros, vous faites l'addition, donc 11 fois 1 200 minimum. Si effectivement il y a plus de ventes de publicité, la ville est intéressée à toute vente supplémentaire. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, nous en avons fini avec le conseil municipal. Je vous rappelle que le prochain conseil, c'est le 14 janvier. D'ici là, il y a des... Pardon ? 14. Et d'ici là, il y a des fêtes de fin d'année que je vous souhaite très, très heureuses, en espérant vous retrouver tous en pleine forme au lendemain du réveillon de la nouvelle année. Voilà. Très bonne année à tous.
Bon, ce matin, on a fait la commission de...